Voilà, frères et sœurs, je me rappelle d'un prédicateur qui nous avait dit avec un fort accent franc-comtois « Novembre, mois de la mémoire !» Je me rappelle, les enfants, ça les avait marqués, ça les avait fait beaucoup rire. C'est pas forcément drôle d'ailleurs, mais enfin, c'est vrai que sa manière de le dire était très percutante. Et nous sommes effectivement dans ce mois de la mémoire. Je vais vous en reparler à partir de ce texte qui nous parle aussi d'un pécheur repentant sur la croix cette fois-ci. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Nous sommes au Golgotha. Jésus et ses compagnons de souffrance viennent d'être crucifiés. L'un des malfaiteurs crucifiés insultait Jésus. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Eh bien, frères et sœurs, tu nous mets l'image suivante. Ah, pardon.
On va partager l'écran pour ceux qui sont connectés, c'est
ça? Eh bien, j'en profite pour saluer Jean-Luc et Sylvia et peut-être d'autres personnes qui sont en visio. C'est juste l'image d'avant. Non, d'avant. Voilà. Voilà. Eh bien, frères et sœurs, effectivement, dans notre société française, novembre reste un mois de la mémoire. On va en famille au cimetière fleurir les tombes, peut-être. On se souvient aussi de l'horrible massacre que fut la guerre de 1914-1918. En fait, je commençais à rédiger cette prédication le 11 novembre, alors... J'avais tout ça dans la tête. Et je crois que c'est important de penser à la mort et d'y penser même sérieusement. C'est important de penser à la mort des autres, mais aussi à la nôtre. Et c'est encore plus important de le faire en pensant à la mort de Jésus. C'est ce que nous allons faire ce matin. Luc, dans son évangile, nous montre que Jésus ne meurt pas seul. Il est en bonne compagnie, enfin bonne, si on veut. Il est crucifié avec deux malfaiteurs, nous dit Luc. Deux hommes dont on ne sait pas grand-chose. Matthieu et Marc utilisent un autre mot pour les qualifier. Ils disent d'eux qu'ils sont des brigands. Des gens, en tout cas, qui avaient certainement du sang sur les mains, peut-être de ces zélotes qui fomentaient des attentats et des assassinats contre les Romains et contre ceux qui collaboraient avec l'occupant. Luc utilise un terme plus général, très intéressant je trouve. Il parle de malfaiteurs. Exactement, c'est la traduction littérale du mot dans le texte grec de la Bible. Il parle de malfaiteurs. Fêteurs, c'est-à-dire tout simplement des gens qui ont fait le mal, hein, étymologiquement. Malfaiteur, c'est quelqu'un qui a fait le mal. Nous pourrions donc nous sentir concernés, parce qu'il nous arrive aussi, enfin en tout cas à moi, de faire le mal. Et en nous donnant à méditer la conversation de ces trois malheureux pendus au bois, Luc veut certainement nous révéler quelque chose sur nous-mêmes. Il évoque notre situation d'être mortel, d'être pécheur, mais aussi d'être sauvé. Alors voyons ce premier malfaiteur. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on appelle traditionnellement le premier malfaiteur le mauvais larron, par opposition à son collègue qui intervient après lui et qui serait le bon larron. On peut s'interroger, est-ce que le premier est forcément plus mauvais que le second? Ils sont tous deux, selon Luc, des malfaiteurs, des malfaiseurs ou des malfaisants, comme vous voulez. Mais ce premier larron est révolté par sa situation. Il est révolté par sa situation. Franchement, comment pourrions-nous le lui reprocher? Qu'aurions-nous dit, nous, à sa place, en présence de Jésus qui faisait tant de miracles? Ne sommes-nous pas souvent des moqueurs, nous aussi, et des quémandeurs? Qui d'entre nous, dans des moments de maladie, de souffrance physique ou morale, d'injustice, de deuil, n'a pas été tenté d'apostropher le Seigneur? Mais sauve-nous, viens à notre aide, puisque tu possèdes la puissance de Dieu. Et on trouve même cela dans la Bible. Lisez le livre de Job. Ou bien dans les psaumes de la Bible. Voyez par exemple le psaume 44. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Sors de ton sommeil. Ne rejette pas sans fin. Pourquoi caches-tu ta face et oublies-tu notre malheur et notre oppression? Les soldats qui ont crucifié Jésus viennent aussi de crier à Jésus. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» C'est vrai, quand même. Comment comprendre que le Fils de Dieu, qui a accompli tant de prodiges, se laisse ainsi torturer et mettre à mort? La logique humaine voudrait qu'il descende de la croix, qu'il fasse devant la foule un beau miracle, et tous pourraient alors croire en lui. Enfin, en fait, rien n'est moins sûr. Et Jésus le sait très bien. Mais en tout cas, Jésus pourrait au moins accomplir ce miracle par pitié, pour sauver ces malheureux qui hurlent de douleur. Il l'a fait pour beaucoup d'autres. Pourtant, Jésus reste sur la croix. Il va mourir et les deux brigands vont mourir avec lui. Eh bien, frères et sœurs, le miracle est là. Il est précisément là, dans cet événement où il ne se passe rien, du moins pour l'instant. Le miracle, c'est que Jésus, le Christ, le Seigneur, reste crucifié à côté de nous. Que Jésus, le Fils de Dieu, accepte d'aller jusqu'au bout des insultes et des souffrances qu'on lui assène, d'aller jusqu'au tréfonds des douleurs et de la mort. Oui, il aurait effectivement très bien pu faire autrement. Mais le miracle maintenant, c'est la révélation de cette présence de Dieu avec nous dans les pires moments de l'existence humaine. Et il est présent avec nous même quand nous nous révoltons. Parce que la situation de ce malheureux qui a fait le mal, de ce premier malfaiteur, évoque la nôtre. Le mal qu'il a commis nous rappelle aussi toutes nos révoltes contre Dieu et contre les humains, le péché qui nous habite, nous aussi. Le fait qu'il est présenté ainsi, exposé sur la croix, suspendu. Hein, le terme dans la Bible ne dit pas qu'il est crucifié, mais qu'il est suspendu. Oui, c'est une manière pour Luc de braquer le projecteur sur ce que nous sommes. Ce que nous sommes devant les hommes, devant le Sauveur, devant Dieu lui-même, des êtres englués dans le mal et le péché et voués à la mort. Et ce malfaiteur exprime aussi notre révolte devant cet état de choses. Nous aimerions évidemment qu'il en soit autrement, que tout aille bien. Nous aimerions que nos refus de Dieu nous maintiennent l'assistance de Dieu, sa disponibilité pour nos besoins personnels. Je pense à des collègues de travail de mon épouse, elle m'en parle parfois parce que ça la met en peine, qui n'arrête pas de pester contre Dieu. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu dans ce monde? Qu'est-ce que fait Dieu devant cette souffrance? Et quand il leur arrive quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il agit pas? Pourquoi il agit pas maintenant? Oui, nous aimerions que nos refus de Dieu continuels nous maintiennent l'assistance de Dieu, nous maintiennent sa disponibilité pour nos petits besoins personnels. Nous accusons Dieu de ne rien faire pour nous, alors que bien souvent, c'est nous qui n'avons rien fait pour lui, qui nous sommes détournés de lui, qui avons mal agi, qui sommes des malfaiseurs. L'apôtre Paul écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Ok, ça, on nous l'a déjà dit. Cependant, ce qui est extraordinaire ici, c'est de voir celui qui est sans péché subir la même condamnation que les pécheurs, que tous les malfaiteurs. Ce Jésus est innocent, lui n'a rien fait de mal. S'il meurt sur la croix, frères et sœurs, c'est uniquement pour nous, pour nous délivrer de notre condamnation. Cela, en insultant Jésus, le premier malfaiteur ne pouvait pas encore le savoir. Il ne savait pas qu'en s'en prenant à Jésus, il blasphémait Dieu lui-même. Mais il le faisait en pressentant une grande vérité. Effectivement, Jésus est le Messie. Et Jésus, qui est le Messie, n'est pas venu pour se sauver lui-même, mais pour sauver les autres. Alors, faisons maintenant connaissance avec le second malfaiteur. Le bon larron, comme on dit. Le bon larron qui est tout aussi malfaiteur que le précédent. Lui aussi représente l'humanité, ah oui, tiens, on a pris de l'avance. Lui aussi représente l'humanité engluée dans son péché. Et il le reconnaît. Il le reconnaît même mieux que le premier. Il dit, pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Il confesse ce que nous pourrions tous exprimer devant cette mort inéluctable qui demeure notre horizon à nous tous. Elle est la conséquence de nos actes. Elle est un frein imposé au déchaînement du mal. Elle est le résultat de notre rupture avec Dieu. Et en tant qu'êtres humains, nous continuons trop souvent à préférer le mal au bien, la mort à la vie. Le péché nous a coupés de notre seule source de vie. Nous aussi, nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais, frères et sœurs, mais ce n'est pas une situation définitive. Ce second malfaiteur prend conscience d'un mystère. Celui qui est crucifié à côté de lui, effectivement, n'a rien fait de mal. Jésus est le seul à ne pas être un malfaiteur. Il ne devrait pas souffrir. Il ne devrait pas mourir. L'injustice, toute l'injustice humaine, c'est lui, Jésus, qui l'a subi. Alors que, effectivement, il ne devrait pas la subir. Et il pourrait même ne pas la subir. Il la subit gratuitement. Il la subit librement. Sa mort est un don. Un don. Voyez, le premier brigand est dans la révolte et l'exigence. Le second, comme le publicain de tout à l'heure, est dans la repentance et l'imploration. Lui aussi, comme son copain, a terriblement besoin d'être sauvé. Mais il reconnaît sa faute et demande humblement le salut de Jésus. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Ne sommes-nous pas souvent comme le premier larron? N'avons-nous pas tendance à considérer le salut comme un dû que Dieu devrait absolument nous donner, comme si nous avions un contrat avec Dieu? Parce que nous avons la foi, nous estimons que nous avons droit au salut, que Dieu nous doit le salut. Après tout, n'est-il pas écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » Bien entendu. Mais ce n'est pas exactement cela, l'assurance du salut. Nous n'avons pas reçu avec la foi un passeport pour le ciel, comme me disait un frère en Christ que j'avais connu au Locle, qui me disait « Moi, je suis pas en souci parce que j'ai mon timbre sur mon passeport pour aller au ciel ». Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est bien plus que cela. Nous n'avons pas fait un contrat avec Dieu. C'est lui qui a fait alliance avec nous. Ce n'est pas la même chose. L'assurance du salut, effectivement, se fonde sur la foi. Ô combien ! Parce qu'elle s'appuie sur la confiance sans limite que nous pouvons placer en notre Dieu miséricordieux, dont la miséricorde s'est manifestée pour nous dans la vie, les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils. En Jésus, Dieu a révélé la plénitude de son amour en étant présent à nos souffrances, en prenant sur lui notre péché, en exprimant dans le rejet absolu le pardon absolu. Pour tous les malfaiteurs que nous sommes, il n'est pas descendu de la croix, mais il est mort avec ses deux compagnons pour les délivrer de la mort et nous tous avec eux. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons désormais, avec assurance, c'est vrai, nous abandonner entre ses mains pour trouver le salut. Nous pouvons avec assurance nous abandonner entre ses mains pour trouver le salut, parce que le salut est un don. Ce n'est pas un dû, c'est un don. Vous n'y êtes pour rien, écrit l'apôtre Paul. C'est le don de Dieu. Un don accordé généreusement par celui qui est avec nous. Par celui qui, avec nous et pour nous, est mort sur la croix et qui est ressuscité parce qu'il veut nous garder avec lui dans la vie éternelle. L'assurance du salut, c'est cette certitude de pouvoir trouver auprès de Dieu, en son Fils Jésus-Christ, le pardon, ce pardon que nous avons réclamé ce matin, et la vie éternelle. C'est pourquoi la prière du second malfaiteur peut devenir la nôtre. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Avec ce malheureux, nous pouvons reprendre dans la foi cette prière, le regard fixé sur Jésus crucifié, qui peu après manifestera sa royauté en étant vainqueur de la mort. Voilà. La promesse de Jésus. Bien oui, la promesse. Parce que quand ces trois hommes, ensemble, agonisent et approchent de la mort, le salut n'est pas encore accompli. Mais Jésus est là, avec ses deux compagnons de souffrance. Jésus est là pour eux. Il est là pour nous. Le salut réside sous la forme d'une promesse décisive dans la personne et dans les paroles de Jésus. Jésus subit avec nous les conséquences de nos fautes. Il les porte et les efface dans les paroles qu'il a exprimées justement dans l'évangile de Luc quelques instants auparavant. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il va emporter nos morts dans sa propre mort pour nous faire entrer avec lui dans la gloire de sa victoire, dans la gloire de sa résurrection, de sa vie nouvelle. Mais pour l'instant, Jésus reste suspendu au bois de la croix, exposé au rejet et aux insultes des êtres humains qu'il est venu sauver. Ils l'y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Ces malfaiteurs, à sa droite et à sa gauche, dans leur agonie, sont donc déjà avec Jésus. Celui qui dit « Jésus, souviens-toi de moi » est déjà avec Jésus et il le restera toujours. Jésus lui répond en effet « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'est-ce qu'on a pu dire sur le paradis ? Le paradis signifiait pour les Juifs le jardin des délices. Pour les Juifs du temps de Jésus, c'était le lieu où les justes, après leur mort, attendaient la résurrection. C'était en quelque sorte, si vous voulez, le paradis, c'était en quelque sorte le parvis, la salle d'attente de la résurrection. Pour ce malfaiteur, ce sera le lieu où il pourra paisiblement attendre sa résurrection. Et vous voyez que Jésus le compte ici, au nom de sa foi, digne de ce lieu où étaient les justes. Digne d'être au nombre des justes. Il est, comme on le dit, parce que nous avons l'expression dans la Bible et que dans nos milieux protestants, c'est une expression que nous aimons bien, il est justifié par sa foi. Dieu ne regarde plus ses péchés, il le considère comme son enfant. En mettant notre foi, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, nous sommes justifiés. Nous aussi, à notre tour. Nous pouvons être, comme le dit l'apôtre Paul, en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le malfaiteur restera dans la communion avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, finalement, ne serait-ce pas cela ? Demeurer en Christ. Même au-delà de la mort. Mourir comme ce malfaiteur avec le Christ, mourir avec le Christ, frères et sœurs, ce n'est plus mourir. C'est l'aujourd'hui du salut. C'est continuer à suivre Jésus sur son chemin, continuer à le suivre dans le chemin qu'il a conduit au jour de Pâques. C'est rester avec lui jusqu'au jour de notre résurrection. Et ce jour-là, le règne du Christ sera universel. Le livre de l'Apocalypse proclame que l'agneau qui se tiendra au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Jésus ne viendra pas comme roi, semblable à un nouveau David qui rétablirait son autorité sur le petit peuple d'Israël, comme l'imaginait sans doute encore ce zélote qui le suppliait. Non, Jésus viendra comme roi sur l'univers entier. Et alors, nous dit l'apôtre Paul, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, la mort existe. Elle reste notre limite, parce que nous sommes des créatures, et des créatures pécheresses, marquées par le péché. La mort pose une limite à notre existence terrestre. Elle pose aussi une limite au déchaînement des violences humaines. Mais la mort, et même les souffrances liées à la mort, nous l'avons vu aujourd'hui, n'existent plus sans le Christ. Elles n'existent plus sans Jésus. Il nous accompagne dans ce mystérieux et terrifiant passage. Et nous savons maintenant qu'il est plus fort que la mort. Jésus en est le vainqueur, il en est le maître, il en est même le Seigneur. Déjà sur la croix, avec ses deux compagnons qui représentaient tous les pécheurs et tous les souffrants, il s'en est révélé souverain. Nous pouvons nous en remettre à lui pour notre salut. Quoi qu'il arrive, même dans les situations les plus dramatiques, le Seigneur reste avec nous et nous dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu es déjà avec moi et tu le resteras. » Et nous pouvons avoir une assurance, frères et sœurs, oui, Jésus se souviendra de nous. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous sommes dans l'adoration devant tout ce que ton Fils, Jésus, a fait pour nous sur la croix. C'est pour nous, c'est pour moi qu'il n'est pas descendu, qu'il est allé jusqu'au bout des souffrances et de la mort. C'est pour nous, c'est pour moi qu'il est ressuscité, qu'il est vainqueur. C'est pour nous, c'est pour moi qu'il reste vivant maintenant, avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps, même dans les moments les plus difficiles que nous avons à traverser, il reste avec nous. Seigneur, nous te bénissons pour cette bonne nouvelle, de savoir que rien ne peut nous séparer de Jésus, que toujours il se souviendra de nous, que toujours il nous accompagne sur le chemin de la vie nouvelle, avec lui, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Amen.